autres sont arrêtés et ceux qui ne sont pas arrêtés se cachent. Pourquoi êtes-vous contre la République ? Il y a 10 millions de Noirs dans ce pays et 3 millions de Blancs. Et ce sont ces 3 millions de Blancs qui décident tout seuls. C'est dans les fermes et non dans les villes que vivent les Afrikaners, les descendants des Boers, ceux que l'on appelle les irréductibles, les supporters du dictateur Verwoerd, les fanatiques partisans de l'apartheid. C'est le cas de M. Van Haaswegen qui habite cette ferme très coquette qui s'appelle Berlin.
100%, it's the most beautiful country we are living in.
Je suis très heureux, c'est le plus beau pays du monde.
We live here like kings.
Je vis ici comme un roi sur son royaume.
74.
You don't have any trouble with them?
Not in the
J'ai 74 Noirs qui travaillent sur ma ferme et je n'ai jamais eu d'ennui avec eux.
How do you see the future of this country?
Comment voyez-vous l'avenir du pays?
Well, very bright.
Très brillant.
Because we haven't got any trouble except
Parce que nous n'avons aucun ennui. Sauf évidemment ces idées communistes qui commencent à déferler sur le pays. Et tous les Afrikaners pensent la même chose. Pour eux, il n'y a pas de problème noir. Ils ne veulent pas le connaître. Ils ne veulent rien changer à leur mode de vie. S'il y a des incidents, eh bien, c'est de la faute des communistes. Pourtant, on ne voit pas pourquoi la décolonisation s'arrêterait aux portes de ce pays où vivent 10 millions de Noirs pour 3 millions de Blancs.
Elle est très belle cette archive, comme vient d'entendre, qui date du 2 juin 1961, ces 5 colonnes à la une. Et vous les entendez, c'est 1961. Oui, 1961. 2 juin 1961, c'est-à-dire qu'on est en pleine guerre d'Algérie. Et pour pousser à la décolonisation française, eh bien, ces journalistes passent par l'Afrique du Sud et disent, et pourquoi pas ici aussi, en somme. Mais ils font ce détour judicieux et qui montre au passage que les médias de l'époque n'étaient pas aussi soumis qu'on le dit aujourd'hui. Voilà comment on décrivait à l'époque l'apartheid, le développement séparé des races, qui n'a pas été qu'une chose comme ça en l'air, qui a été une chose théorisée, défendue par des penseurs, mis en loi, en constitution, et qui s'est imposée dans ce pays, comme dans d'autres. À l'époque, la ségrégation sévissait également aux États-Unis, et nous avions, quant à nous, l'esprit, cet esprit colonial, n'oublions pas, colonialiste, puisque je le répète, on était encore en Algérie, on était encore en Afrique. Nous perdions peu à peu notre empire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est lent, c'est très très lent. C'est une lutte contre l'inégalité. Et s'il y a vraiment un argument pour défendre l'égalité, pour défendre la lutte contre l'inégalité, l'Afrique du Sud offre un exemple formidable, parce que l'inégalité conduit à la violence. L'inégalité, évidemment, conduit à la misère, c'est la misère. Et la misère conduit à la violence. Et c'est ce qu'on va voir dans ce qui se passait au lendemain de l'abolition de l'apartheid. On est en 1992, on va à Soweto avec ce père Lafont qui vit là tout seul. Il est le seul blanc installé à Soweto. Le seul blanc installé à Soweto avec sa paroisse. Il a une bagnole déglinguée. D'ailleurs, on lui pique tous les mois. Il se fait voler sa voiture. Il se fait tirer dessus assez souvent. Mais il tient bon. Il a des convictions. Il n'a pas seulement des convictions religieuses. Il a aussi des convictions politiques. Ça se faisait, et ça se fait encore d'ailleurs, de ces prêtres qui mélangent les deux. Et puis, il était proche de l'ANC. Et il était très proche de Mandela par la suite. Et à l'époque déjà, il le rencontrait et il l'a rencontré tout au long de sa vie par la suite, y compris de sa présidence. Voilà pourquoi il était ce matin à cette cérémonie étonnante. Et étonnante, je dis bien étonnante, parce que étonnante, il y a 20 ans, 30 ans, quand sur un mur d'un blocos... Et quand j'étais jeune,